Bonjour à chacun, à chacune. Une joie d'être ensemble ce matin pour célébrer notre Seigneur, notre Sauveur. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous arrivez à partir de cette photo à l'écran à dire ce que cette personne est en train de faire ? Du sport, ouais. Du foot ? Alors, on va avancer. Du tennis de table ? Tennis tout court ? Qu'est-ce qui vous ferait penser à tennis de table ou tennis tout court ? Ok, je ne l'avais pas vu celle-là. Mais peut-être pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le tennis, peut-être dans la gestuelle de la personne, c'est une gestuelle assez particulière. Si vous suivez un peu le tennis, on voit souvent dans les images au ralenti ou sur les photos, effectivement. Et bien sûr, c'est bien quelqu'un qui fait un joueur de tennis. En fait, on voit que entre la première et puis cette dernière photo, plusieurs choses nous ont indiqué que, en tout cas, c'était un joueur qui fait du tennis. D'abord, peu d'éléments, du sport, c'était assez global. Mais après, il y avait des marques, des indices particuliers qui laissaient trouver que cette personne était un joueur de tennis. Dans la lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul a donné de nombreux encouragements aux chrétiens. Il leur a dit « Marchez d'une manière digne de l'Évangile. Comportez-vous comme des citoyens du royaume des cieux. Vous êtes citoyens du royaume des cieux. » Et plus récemment, la semaine dernière, un encouragement à ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Alors on peut se poser cette question, à quoi ressemble une vie transformée par l'Évangile ? Comment vivre dans ce monde en tant que citoyen du royaume des cieux ? Comment vivre finalement sur cette terre ce que nous sommes déjà dans le ciel ? Alors je vous invite à lire la suite de cette lettre à l'église de Philippe, donc chapitre 4, les versets 2 à 9. J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle et collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous, de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Passage qu'on vient de lire, Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il est plein d'impératifs. Et j'aimerais qu'on puisse retirer de ce passage 5 conseils très pratiques pour la vie chrétienne. 5 choses qu'on pourrait cultiver, que nous sommes encouragés, que nous sommes appelés à cultiver dans nos vies, qui sont les marques d'une vie à la ressemblance de Christ. La première chose que nous dit Paul, c'est cultiver l'unité, versets 2 et 3. Paul fait référence à une situation entre deux femmes qui sont dans l'église de Philippe, Évodie et Saint-Iche. Et comme il le mentionne, ces deux femmes sont des anciennes collaboratrices de Paul. Elles ont œuvré pour propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais aujourd'hui, il semble qu'il y ait un différend qui les oppose. On n'a pas de détails, on n'a pas d'informations à proprement parler de cette tension qui existe entre ces deux femmes. Mais en tout cas, cela semble assez sérieux, puisque Paul écrit cette lettre à une église, donc elle va être lue à l'église, et il mentionne le prénom de ces deux femmes. Et il leur recommande la chose suivante. Vivez en plein accord. Ou peut-être, dans d'autres traductions, vivez en parfaite harmonie. Paul leur dit, soyez unis. Et on rejoint ce thème de l'unité qui est cher à Paul et qu'il a développé, on l'a vu, dans le parcours de cette lettre à l'église de Philippe. L'unité est essentielle dans la communauté chrétienne parce que la communauté est appelée à refléter Jésus-Christ. Et en fait, la communauté, l'Église, est un témoignage de la puissance de l'Évangile. C'est-à-dire de ce que Dieu a mis en œuvre pour nous réconcilier, nous, des hommes et des femmes qui étions séparés de lui, pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous réconcilier les uns avec les autres. Autrement dit, pour Paul, la perspective de ces tensions entre ces deux femmes qui existent dans l'Église est un risque de contre-témoignage à ce que Christ a accompli dans nos vies. Pourquoi rester en conflit avec une personne que Jésus a sauvée? Et Paul le dit, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Paul a donné la solution ou des pistes pratiques pour très certainement ces personnes qui étaient visées dans le chapitre 2 de sa lettre, où il parle de l'unité. Et il leur a dit, « Ayez un même amour. » Chapitre 2, verset 2. « Ayez une même pensée. Ayez un même but, un même objectif. » Cela ne veut pas dire être d'accord sur toute chose. On peut avoir des désaccords, ne pas avoir forcément le même point de vue sur toute chose. Mais Paul les invite, les encourage à s'entendre, à avoir une même pensée pour les choses qui sont essentielles dans la parole de Dieu, les choses qui concernent l'Évangile. Il ne devrait pas y avoir de désaccord. Des choses qui concernent la croix de Christ, le salut, des choses qui sont essentielles à la foi chrétienne. Il peut y avoir ensuite des sujets secondaires où on peut avoir des points de vue différents. Et c'est pas très grave, mais ne créons pas des tensions, des disputes sur ces choses-là. On n'est pas tous obligés d'être d'accord sur la compréhension de l'ordre dans laquelle le Seigneur Jésus, par exemple, va revenir. On peut ne pas avoir tous le même point de vue, la même compréhension de ce qui concerne les dons spirituels. On peut ne pas tous être d'accord sur le moment le plus approprié de partager le repas du Seigneur pendant le culte. mais il y a des choses essentielles sur lesquelles nous nous devons d'être unis. Alors peut-être une première application pour nous ce matin. Êtes-vous en conflit, en tension avec un frère ou une sœur de l'Église? Ne laissez pas les choses s'envenimer, mais peut-être prenez la résolution de décrocher le téléphone peut-être cette semaine, d'aller rencontrer cette personne, de discuter, peut-être de vivre le pardon. Et comme le dit Paul, peut-être si cette situation est trop importante, n'hésitez pas à faire appel à une tierce personne, peut-être un responsable de l'Église. Deuxième encouragement, cultivez la joie. Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Je me demande s'il n'y a pas un lien avec ce que Paul a dit juste avant. Finalement, si on arrive à réaliser dans nos vies tout ce que Dieu est pour nous, et on l'a fait en partie ce matin, eh bien finalement, il n'y a pas de lieu à se disputer, mais de se réjouir d'avoir l'essentiel, d'avoir dans nos vies ce qui est le plus important. C'est la joie, c'est encore un des thèmes tellement importants de cette lettre aux Philippiens, et on l'a vu déjà dans ce parcours. N'oublions pas encore une fois le contexte dans lequel Paul écrit. Paul est en prison. Les chrétiens auxquels il écrit sont persécutés pour leur foi. Ils sont sous occupation romaine. Et Paul, bien sûr, évoque cette joie qui est indépendante des circonstances tellement éprouvantes, tellement douloureuses, tellement difficiles que l'on peut être amené à vivre dans nos vies. Nos circonstances sont un petit peu comme la météo. Tantôt, on traverse de beaux jours. Tantôt, c'est la pluie. Tantôt, c'est le vent dans nos vies. Tantôt, c'est la neige, comme aujourd'hui. Et cette météo est très fluctuante. Mais se raccrocher à la joie du salut, se raccrocher à cette relation que Christ nous a acquise avec Dieu pour l'éternité, se raccrocher à cette réalité de se savoir pardonné par Dieu. Voilà des raisons de se réjouir constamment au plus profond de nous. Alors, comme application, peut-être cette question, comment cultiver cette joie du salut dans nos vies, quelles que soient les circonstances? Ben, il me semble qu'une piste, en tout cas, c'est de se rappeler régulièrement les vérités de l'Évangile. Peut-être quand, dans la journée, j'ouvre la parole de Dieu pour mon temps de culte personnel avec le Seigneur et que je me rappelle ces vérités à propos de qui est Dieu et de ce qu'il a accompli pour moi. Cela me rappelle mon identité en Christ. Et même si la journée qui s'annonce va être compliquée, je peux revenir à ces réalités et me dire « l'essentiel est là ». Peut-être quand on est les uns avec les autres, qu'on peut se rappeler ces vérités les uns aux autres. Parler de cette vie avec Dieu et combien cela peut nous encourager dans notre quotidien de dire « ah oui, c'est vrai ». Voilà aussi une marque dans la vie chrétienne qui peut-être impacter et toucher celles et ceux qui nous côtoient et qui ne font pas encore partie de ce royaume de Dieu, qui peuvent les toucher, les interpeller, dire « mais pourquoi t'as cette joie, tu sembles avancer malgré toutes ces difficultés? Qu'est-ce qui te fait tenir debout? Quelle belle occasion de témoignage, de parler de cette relation avec Dieu que l'on a. » Troisième chose à cultiver, la douceur, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. De nouveau, une question pour nous. Pourquoi sommes-nous connus auprès des personnes qui nous côtoient? Peut-être que nous sommes connus pour notre gentillesse, pour notre altruisme, pour notre côté serviable, pour nos forces. Les voisins font appel à nous quand il y a quelque chose à des travaux particuliers à faire. Peut-être pour notre générosité. Je trouve ça intéressant que l'apôtre Paul nous encourage les chrétiens à cela. Soyez connus pour votre douceur. Quelle est la douceur dont parle l'apôtre Paul ? La Bible d'études du semeur nous dit « C'est une réaction positive face à une attitude qui, normalement, susciterait un désir de vengeance ou de revendication de ses droits. » Ou alors, un pasteur et théologien, John MacArthur, qui dit « C'est la patience de celui qui accepte l'injustice ou les mauvais traitements sans exercer de représailles. » Et en cela, on peut regarder à Christ, le modèle par excellence de la douceur. Jésus qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. » C'est donc un trait de caractère qui est tellement contre nature pour nous, qui sommes marqués encore par ce péché qui est là dans nos vies. Quelle est la clé pour être connu, pour notre douceur, pour grandir dans cette douceur ? Peut-être ce que Paul dit par la suite, le Seigneur est proche. Très certainement qu'il fait un lien avec la perspective du retour de Christ, où à ce moment-là, la justice sera établie par le Seigneur lui-même. Prenez patience face à l'injustice. Prenez patience face aux circonstances qui sont anormales de ce que les autres vous font. Un jour, le Seigneur va revenir et ce jour approche bientôt. Là encore, très certainement, cette marque de la présence de Dieu dans nos vies peut constituer un témoignage aussi auprès de celles et ceux qui nous côtoient. Dans ce monde qui est bien souvent marqué par l'agressivité, la méchanceté et le désir de représailles, de vengeance, soyons connus pour notre douceur. Quatrièmement, cultiver la prière. Versets 6 et 7. Alors j'ai une question encore pour nous ce matin. Qui ne s'inquiète jamais ? Le premier qui lève la main, on va en discuter, je suis intéressé de savoir la recette. L'inquiétude fait partie de nos vies, de notre quotidien. J'ai regardé la définition sur Internet, sur le site L'Internaute, sur l'inquiétude, et c'est dit donc un trouble causé par la crainte, par l'incertitude. C'est le sentiment en fait qui nous envahit quand on est face à une situation ou des circonstances qu'on ne maîtrise pas. Je le répète, c'est le sentiment qui nous envahit quand on est face à une situation ou des circonstances qu'on ne maîtrise pas. De nouveau, on peut penser à Paul. Paul avait très certainement de nombreuses raisons d'être inquiet, de se faire du souci. Rappelez-vous, il va y avoir un procès, il ne connaît pas l'issue de ce procès, il pense qu'il peut être exécuté à l'issue de cela, même s'il a bon espoir que ce ne soit pas le cas. De nouveau, les chrétiens auxquels il écrit sont dans un contexte de persécution. Peut-être certains commencent à risquer leur vie pour le fait qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, dans nos vies, de nombreuses situations peuvent être source d'anxiété. La guerre est aux portes de l'Europe depuis maintenant bientôt un an. Plus près qu'elle n'a jamais été, Et je lisais récemment là, dans l'actualité que ça y est, c'est la guerre qui a fait le plus de morts depuis, en Europe depuis 1945. On a vécu 2 années de pandémie. On peut penser à la crise économique que l'on traverse, la crise sociale, tout ce qui concerne le réchauffement climatique. Tant de choses qui peuvent susciter de l'incertitude, de l'inquiétude, de l'anxiété concernant l'avenir. Toutes des choses qu'on ne maîtrise absolument pas. La clé de tout cela, nous dit Paul, cultiver la prière. C'est en fait transformer nos sujets d'inquiétude en sujets de prière, tout en incluant la reconnaissance. Ne nous inquiétons de rien. Prions pour toute chose et soyons reconnaissants pour toute chose. Quelqu'un a dit, les soucis chassent la prière chasse les soucis. Pourquoi prier ? Parce que la prière est une expression de notre confiance en Dieu qui gère, qui est au contrôle, qui est souverain sur le monde. Il n'y a rien de trop grand pour lui. Si moi je n'ai pas la solution, lui, il l'a. Cet encouragement de Paul est accompagné d'une magnifique promesse, la paix de Dieu qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix qui est en quelque sorte un contentement intérieur que Dieu donne, nous accompagne dans des moments difficiles et peut-être surprenantes, et elle dépasse bien souvent notre compréhension. Et je peux croire que plusieurs d'entre nous l'avons déjà expérimenté, de traverser des circonstances qui devraient susciter tellement de crainte, et après avoir pris le temps de remettre ces sujets au Seigneur, combien il nous fait des fois prendre du recul sur cela et nous donne une paix qui nous permet d'avancer jour après jour et finalement de traverser ces circonstances de manière étonnante. Alors cultivons la prière dans nos vies. Je crois que je peux l'affirmer parce que je me sens le premier concerné par cela. Nous ne prions jamais assez, jamais suffisamment. Prions, planifions des temps dans nos journées pour prier. Mais prions aussi de manière spontanée, quand on est en train de marcher, quand on est en train de conduire, les yeux ouverts. Quand on est les uns avec les autres, qu'on a passé un temps pour partager, prendre des nouvelles, vécu une activité, peut-être un loisir ensemble, avant de se quitter, prenons le temps de prier, de remettre au Seigneur peut-être les soucis que nous vivons les uns et les autres, de les confier ensemble au trône de la grâce. Un encouragement aussi à prier et à participer, à vous impliquer dans ces temps de prière communautaire, particulièrement les groupes de maison qui sont un endroit tellement chouette aussi pour vivre ces temps de prière où nous prions pour tellement de sujets, pour nos vies personnelles, pour la vie d'église, pour ce qui se passe aussi dans le monde. Ne nous privions pas de prier. Enfin, cinquième encouragement, cultivez vos pensées. Versets 8 et 9. Portez, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Et Paul cite tout un nombre de vertus que nous sommes appelés à cultiver. Et j'ai encore cette question pour nous. Quel régime alimentaire soumettez-vous à vos pensées ? Quel régime alimentaire soumettez-vous à vos pensées ? Il y a un dicton allemand, alors ça fait tout son effet en allemand parce qu'il y a une rime, alors je ne me lancerai pas du tout dans la prononciation, mais qui dit en français « Nous sommes ce que nous mangeons ». Nous sommes ce que nous mangeons. Et une petite anecdote à propos de ça. Est-ce que vous savez pourquoi les Flamands roses sont roses ? Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est lié à la nourriture qu'ils mangent. Et ils se nourrissent essentiellement des crevettes. Et c'est ça qui leur donne le teint rose. Nous sommes ce que nous mangeons. C'est une question importante parce que Paul fait un lien direct, finalement, entre nos pensées et notre comportement. Ce à quoi nous pensons régulièrement a une influence sur nos paroles et nos actes. On peut penser en ça à la puissance de la publicité. C'est exactement sur cet aspect-là que la publicité joue. Il nous inculque la pensée que le produit qu'ils sont en train de nous présenter est extraordinaire et exceptionnel. Jusqu'à ce que cette pensée fasse son chemin dans notre tête et nous amène à passer à la caisse. C'est aussi le principe de la propagande, malheureusement, en temps de guerre, où des messages politiques ou militaires sont communiqués pour susciter la haine et des actes de représailles contre un certain groupe, par exemple. Puisque nos pensées façonnent notre comportement, Paul nous encourage à choisir ce dont nous allons nourrir nos pensées. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit ceci. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, dans d'autres versions, dans le renouvellement de vos pensées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon et parfait. » Si notre désir, on l'évoquait la semaine dernière, est d'agir en parole et en acte à la ressemblance de Christ, alors nourrissons nos pensées de tout ce qui, sur cette terre, porte les marques de l'œuvre de Dieu. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste. Et de nouveau, une application peut-être pour cette semaine. Avec cette question, de quoi vais-je nourrir mes pensées ? Si la parole de Dieu est la vérité, quelle part de mon temps vais-je consacrer à sa lecture et à sa méditation cette semaine ? Quelle part je vais y consacrer en comparatif du temps que je peux passer peut-être à lire des livres, à surfer sur les réseaux sociaux, etc., etc. Seigneur, peut-être cette prière pour nous ce matin, aide-nous à faire le tri dans nos pensées. Quelles sont les marques d'une vie à la ressemblance de Christ ? Une vie marquée par l'unité, une vie marquée par la joie, par la douceur, par la prière, par des pensées qui suscitent des actes qui rendent honneur à Dieu. Dans ces impératifs que l'apôtre Paul nous donne, il n'y a aucun légalisme ou désir de culpabiliser ses lecteurs. Cultiver toutes ces choses dans nos vies ne nous fait pas mériter quelque chose de plus. Et ne pas les cultiver ne nous fera pas mériter quelque chose de moins de la part de Dieu. Mais il y a une énorme bénédiction qui est associée au fait de cultiver tout cela dans nos vies et qui ressort grandement dans ce passage. C'est expérimenter la paix de Dieu. Versets 2 à 5, la paix dans nos relations les uns avec les autres. Versets 6 à 7, la paix face aux circonstances parfois bien compliquées de nos vies. Et versets 8 à 9, la paix d'une conduite juste et agréable devant Dieu. Et finalement, cette paix que nous pouvons expérimenter déjà ici-bas n'est qu'un avant-goût de celle dont nous jouirons totalement quand Jésus-Christ reviendra et qu'il établira des nouveaux cieux, cette nouvelle terre, un lieu où nous vivrons des relations parfaitement harmonieuses les uns avec les autres et tous ensemble avec Dieu. Un lieu où il y aura une absence totale de soucis et d'inquiétudes. Et un lieu où nos comportements, nos vies, nos actions, nos actes, nos paroles seront parfaitement agréables à Dieu parce qu'il ne sera plus possible de pécher. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous encourages au travers d'elle. Et c'est vrai qu'on a devant nous ce matin, au travers de ce texte, au travers de ce passage, un beau programme pour nos vies. Mais je fais le bilan, je fais le constat, je fais la triste expérience que ce n'est malheureusement pas toujours la vie que je mène, les attitudes que j'adopte, toujours au bon moment, quand il faut, Seigneur. Ma vie n'est pas toujours le parfait témoignage, le parfait reflet de ma nouvelle identité en Christ. Mais Seigneur, merci parce que ton amour, merci pour le regard que tu portes sur ma vie, sur nos vies, Seigneur, n'est pas dépendant de tout cela, mais comme la mentionner l'apôtre Paul dans cette lettre est dépendant de ce que Christ a accompli pour nous. Notre identité est fondée en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné cette nouvelle nature d'enfant de Dieu. C'est lui qui nous a attirés dans son royaume, qui a fait de nous des fils et des filles. Merci parce que tu nous as donné ton esprit qui vit en nous et qui nous donne aujourd'hui, Seigneur, la capacité, les possibilités de vivre des vies qui sont à ta gloire. Alors Seigneur, que pour cette semaine qui est devant nous, par ton esprit qui agit en nous, Seigneur, oui, tu nous donnes de cultiver des relations harmonieuses les uns avec les autres. Tu nous donnes de cultiver la joie dans nos vies, de cultiver la douceur, de cultiver ces temps de dépendance avec toi au travers de la prière et face à toutes les inquiétudes, tous les soucis qui peuvent nous envahir. Et que tu nous donnes de faire du tri dans nos pensées, Seigneur, de nourrir nos pensées de choses qui sont belles, de choses qui sont justes, de choses qui te sont parfaites, qui sont bonnes, Seigneur. Avec l'aide de ton esprit, on veut aborder cette semaine qui commence, Seigneur, et encore nous réjouir de cette nouvelle identité que tu nous donnes en Jésus-Christ. Seigneur, je te remets peut-être là, personne qui est là ce matin et qui peut-être ne t'appartient pas, ne fait pas encore partie de ton royaume, Seigneur, que peut-être ta parole puisse faire son œuvre, son action dans sa vie et qu'elle puisse découvrir au travers encore de ce passage, au travers de ce qu'on a vécu ce matin, Seigneur, toute la beauté de qui tu es, la beauté de vivre cette vie ici-bas, dans cette relation avec toi, cette confiance en toi, dans la perspective de cette vie nouvelle qui a déjà commencé pour celles et ceux qui t'appartiennent et qui sera parfaite quand tu reviendras, Seigneur. En ton nom, Amen.